divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mais puisque nous sommes ce dimanche 18 juin à 3 jours de la fête de la musique, il nous a semblé opportun de parler de franc-maçonnerie et musique. Et c'est pourquoi nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Thomas. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors vous êtes un historien spécialisé dans le 18e siècle et aussi un spécialiste de la musique. Et vous avez écrit il y a très peu de temps un livre qui s'appelle « Lumière et son ». Ça aurait pu être son et puis après lumière, mais vous avez choisi « Lumière et son ». Et donc il s'agit de la franc-maçonnerie de la musique en France du XVIIIe siècle à nos jours. Alors, je vais me risquer un exercice difficile à la radio, c'est parler de la page de couverture, parce que on voit un jeune qui joue de la lyre, on voit un temple et des pierres taillées qui volent vers le ciel. C'est vous qui avez choisi cette couverture ?
Oui, tout à fait. Il s'agit d'Amphion, roi de Thèbes, qui, en jouant de la lyre, fait que les pierres se taillent elles-mêmes, les pierres taillées volent dans le ciel et construisent les murs de Thèbes. Et c'est un dessin de Coypel, qui est au musée de Nancy, un dessin du XVIIIe siècle, parce qu'au XVIIIe siècle, eh bien, le mythe d'Amphion a été un mythe extrêmement récurrent dans la tradition maçonnique et l'inspiration des musiciens maçons.
Alors, en préparant cette émission, je dois dire que j'ai trouvé dans votre livre une petite phrase qui est attribuée à notre frère Goethe. Je dois vous la lire parce que c'est un petit clin d'œil entre nous qui sommes soi-disant les architectes. Je crois que nous sommes d'abord les architectes de nous-mêmes et la musique. Je vous cite cette phrase. Un noble philosophe a dit de l'architecture qu'elle était de la musique pétrifiée. C'est peut-être pour ça que vous avez choisi cette couverture d'ailleurs. Et ce mot a dû exciter plus d'un sourire d'incrédulité. Et Goethe poursuit en disant « Nous croyons pouvoir mieux reproduire cette belle pensée qu'en appelant l'architecture une musique muette. » Alors, nous sommes des architectes, je le disais tout à l'heure, nous sommes maçons, cette émission s'adresse aux maçons et surtout aux non-maçons. On pourrait commencer par une première question, existe-t-il une musique maçonnique spécifique ? Alors, je vous pose cette question parce que à chaque fois que l'on parle de franc-maçonnerie et musique, c'est évidemment l'arbre cachant la forêt, c'est notre frère Mozart, et on ne cite que Mozart et encore Mozart, quelquefois Sibelius, les autres, si j'ose dire, tombent dans la trappe. Mais quand même, revenons sur la question, est-ce qu'il y a une musique maçonnique ? C'est un leurre, un mythe, si j'ose dire, ou une réalité ?
Alors, la réponse est assez simple. Sur le plan technique, il n'y a pas de musique maçonnique, puisque tout ce qui pourrait supposer qu'une musique soit maçonnique dans sa composition, notamment les tierces, etc., ont été utilisées par tous les compositeurs, y compris Bach, qui n'était pas maçon. Et la musique n'est maçonnique que dans son inspiration, c'est-à-dire dans ce qui a motivé les thèmes retenus, qu'il s'agisse de pièces de musique ou d'opéra, le plus souvent, où effectivement la connotation maçonnique est toujours sous-jacente. Mais techniquement, il n'y a pas de musique maçonnique, même si certains ont voulu qu'il y en ait une. Et je crois que là, c'est un leurre qu'il faut dissiper dès le début.
Alors, on a évoqué quelquefois l'arithmétique. Alors, comme les francs-maçons répètent souvent dans nos rituels le quadrivium, évidemment, je rappelle que c'est l'ensemble des sciences mathématiques, c'était la théorie antique qui regroupait l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Donc, certains ont cru que par les chiffres ou les nombres, on allait faire une association entre ceux-ci.
Non, je crois qu'il serait superfétatoire de le dire. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que dès le début de l'aventure maçonnique, la musique a été présente. La présence de musiciens francs-maçons est attestée dans les premières loges, notamment la loge Custos, Villeroy, la plus ancienne à Paris. Et très très rapidement, la problématique maçonnique est entrée dans les opéras, notamment ce Brameau au XVIIIe siècle, qui a été l'âge d'or, bien sûr, de la franc-maçonnerie, la musique de la franc-maçonnerie.
Mais alors, à contrario, dans nos loges, la musique est très présente.
Alors la musique est à nouveau présente depuis quand même une trentaine d'années, elle avait un peu disparu. Elle a été très présente au XVIIIe siècle, puisque au XVIIIe siècle, personne n'aurait imaginé une franc-maçonnerie sans musique. Et ça a été vrai plus longtemps qu'on ne le croit, jusqu'à l'époque romantique, jusque même au début du Second Empire. Et dans la deuxième moitié du XIXe et la première du XXe siècle, elle a disparu. Et ce sont les nouvelles technologies, si je peux dire, qui ont permis de la réintroduire à partir de l'après-guerre, mais surtout dès que la technologie est arrivée dans les années 80, puisque maintenant on peut produire de la musique avec à peu près tout support numérique, voilà, ce qui est assez pratique. Et maintenant, les maçons travaillent en musique, ce qu'ils avaient perdu l'habitude de faire. Voilà, donc ils reviennent à la tradition qui était de ne pas dissocier musique et art royal depuis l'origine.
Donc, éventuellement, vous pourriez dire qu'il n'y a pas de tenue, puisque c'est comme ça que l'on appelle nos réunions.
Absolument.
Il ne pourrait pas y avoir de tenue sans qu'il y ait un minimum de musique qui... Mais qui ferait quoi? Quel serait le rôle de cette musique?
Alors, ça, c'est l'objet d'un chapitre, effectivement, qui est adressé plus spécifiquement à ce que nous appelons les maîtres des colonnes d'harmonie, qui sont ceux qui sont responsables de la musique, en expliquant que la colonne d'harmonie doit quand même répondre à des règles symboliques précises et qu'on ne doit pas mettre, comme quelquefois on le fait trop souvent, la musique qui nous plaît, ou de la musique trop légère, ou de la musique qui ne comporterait pas de spiritualité. Il faut quand même faire en sorte que la musique colle au rituel. Ce peut être de la musique classique, ce peut être même du jazz, puisque beaucoup de jazzmen ont été maçons, ce peut être aussi des musiques traditionnelles, les musiques de la terre, comme on dit, qui portent en général une très forte connotation de spiritualité fondamentale. Voilà.
Alors, puisque vous parlez de spiritualité, on a l'habitude de parler de musique sacrée. Vous pourriez peut-être nous la redéfinir, mais est-ce qu'il existe une musique spirituelle qui se rapprocherait de la démarche maçonnique?
Oui, s'il n'existait pas de musique maçonnique, il existe une musique spirituelle. D'ailleurs, les premiers musiciens francs-maçons composaient indifféremment des messes, des motets ou des pièces pour les loges. C'était le même métier. Et cette tradition a quand même longtemps perturbé tant, dont au XVIIIe siècle, il fut l'âge d'or de la musique maçonnique, que la Révolution, qui l'a réutilisée, puisque la Révolution a réutilisé pratiquement tous les symboles de la musique du XVIIIe, notamment l'ouverture et la fermeture des travaux, etc., puisque la plupart des compositeurs de la Révolution et après de l'Empire, et même de l'époque romantique, étaient bien sûr des maçons, dont les plus emblématiques, on ne va pas les citer tous, étaient Cherubini par exemple, Méhul, Gossec, etc.
Les musiciens, vous évoquez les musiciens pendant cette époque, même au temps de Louis XVI. Vous avez développé dans votre livre justement l'essor qu'a eu la musique, y compris à Versailles. Vous pouvez nous
voilà. Alors Versailles est un haut lieu. La cour de Versailles, la cour de Louis XVI et de Marie-Antoinette est un haut lieu de la vie maçonnique, puisqu'il y a plus de 22 loges à l'orient de la cour de Versailles. Il y avait même des loges une loge était composée par exemple toute la musique du roi, une note composée de tous les musiciens de l'opéra. On a des partitions maçonniques, des petits opéras maçonniques, notamment de Nogaret, qui était le vénérable maître d'une de ces loges, avec Giroux, qui ont composé plus d'une vingtaine d'opéras que je recense, sur des thèmes d'ailleurs que reprendra notamment, par exemple Beethoven reprendra dans sa 9e symphonie, les Schiller reprendront une partie des opéras de Nogaret. Les premiers orchestres répertoriés en France ont été formés par des maçons. Et c'est vrai que l'orchestre, lorsqu'on y réfléchit, est tout à fait la réplique de la loge maçonnique, où chacun sait ce qu'il a à faire, et pas autre chose. Voilà, donc c'est une construction en commun dans l'harmonie, et l'harmonie c'est un thème extrêmement important, c'est le titre distinctif de beaucoup de loges au XVIIIe, et l'harmonie, bien sûr, elle a un sens à la fois musical, et elle a un sens philosophique, puisque bien sûr, c'est l'harmonie, ce que recherchent les maçons, hein, en rappelant que c'est toujours la recherche des contraires, de réunir ce qui n'était pas, puisque vous savez que dans la mythologie, harmonie est fille de la guerre, fille de Mars et fille de l'amour. Donc elle est bien à l'unisson de ce que nous recherchons. Et cette harmonie, les maçons l'ont beaucoup pratiquée, y compris ceux qui ont mis la maçonnerie dans les opéras, ce qui a été le cas notamment de Rameau, dans ses premiers opéras, notamment Zoroastre, Castor et Pollux, ou Les Fêtes de l'amour et de l'hymen, où là vraiment la problématique maçonnique est quasiment omniprésente. On ne sait pas si Rameau était maçon, mais très certainement. Mais tous ces librettistes l'étaient en revanche. On en est pratiquement sûr dans Cahuzac.
Donc, du temps de Louis XVI et à Versailles, des maçons pouvaient, un, se réunir, les musiciens maçons, les francs musiciens, s'il faut les appeler comme ça, pouvaient exercer leur œuvre.
Et donner même des concerts dans l'hôtel des Chevaux Légers, devant le roi, la reine et le gouvernement, ce qui ne gênait personne, et au profit d'œuvres caritatives, puisque l'aspect caritatif est très très nouveau, donc soit pour les pauvres, tout simplement, soit pour les musiciens eux-mêmes, qui n'avaient pas à l'époque de statut, et donc souvent, quelquefois, quand ils ne devenaient pas des stars, finissait dans la misère. Voilà.
Donc, ça tord le cou aussi une autre idée reçue. Tous les francs-maçons n'étaient pas révolutionnaires. Il y en avait beaucoup qui étaient donc, sinon du côté du roi, en tout cas, avec la bienveillance de Marie-Antoinette.
Avec la bienveillance de Marie-Antoinette, qui peut-être a été initiée à Versailles, c'est mon opinion, mais je n'en ai pas la preuve, puisque vous savez qu'on connaît cette fameuse lettre de Marie-Antoinette en 1085 à sa sœur Marie-Christine, qui dit « La maçonnerie, tout le monde en est ». Et elle ajoute plus loin « Pourquoi voulez-vous qu'elle soit dangereuse ?» Et quand elle dit « Tout le monde », évidemment, tout le monde, c'est pas les 90% de Français paysans, c'est pas les esclaves dans les colonies, c'est pas les quelques ouvriers, c'est évidemment la cour, les bourgeois, les aristocrates et les musiciens. Il y a quand même un engouement qui est assez extraordinaire. La révolution ne va pas être l'enfant d'un complot de la maçonnerie, ça c'est une légende du 19e. En revanche, effectivement, la musique de la révolution va très très fortement s'inspirer de la musique maçonnique.
Je reviens sur Marie-Antoinette et la cour, puisque donc tautologie, Marie-Antoinette est une femme. Quid de la musique maçonnique féminine et à cette époque, c'était des musiciens
c'était des musiciens hommes. Oui, la plupart des musiciens sont des hommes. Alors, il y a très peu de musiciens femmes. Il y en a une ou deux, dont une qui sera la fille d'un musicien maçon et qui sera d'ailleurs une des déesses raison. Mais c'est quand même une exception. Non, ce sont des loges d'hommes avec des musiciens qui sont essentiellement masculins. Il y a des loges féminines. Ce sont des loges d'adoption, c'est-à-dire que les sœurs travaillent sous l'autorité des hommes, voilà, qui contrôlent leur travail. Mais bien sûr, Marie-Antoinette a sa meilleure amie, la Princesse Lamballe, les grandes maîtresses des loges d'adoption, des loges féminines d'adoption.
Vous avez évoqué tout à l'heure les opéras. Quid des opéras maçonniques? Alors, je reviens sur Mozart. Donc, vous nous disiez tout à l'heure que la flûte enchantée, la musique par elle-même n'a rien de maçonnique. En revanche, l'histoire qu'elle raconte.
Voilà. Enfin, l'histoire de la flûte n'est pas spécifiquement maçonnique. Il s'agit d'une initiation, mais est-ce qu'on est vraiment dans la maçonnerie? Bien sûr, oui, puisqu'on connaît bien sûr l'aventure de Mozart et de sa loge à Vienne, bien sûr. Mais alors, ce qu'il faut savoir juste pour la flûte, c'est que les Français ne la connaissent pas. Ils ne vont attendre très longtemps avant de la connaître. Ils vont même attendre le Second Empire. Ils ne vont la connaître sous le Premier Empire qu'à travers un opéra réécrit, recomposé, qui s'appelle Les Mystères d'Isis de Lachnit. Voilà, parce qu'on estimait que la flûte n'était pas jouable telle que devant les Français, et donc on l'a réorchestré, réinventé, comme on le faisait à l'époque où il n'y avait pas de droit d'auteur, où chacun s'emparait de l'œuvre des autres et on faisait un petit peu ce qu'il voulait.
Mais il y avait donc d'autres opéras.
D'autres opéras, bien sûr. On a effectivement les opéras de Rameau, les opéras de Nogaré, et puis des opéras de Poinciné. On a notamment deux amusants, donc Arlequin franc-maçon, qui raconte l'initiation d'Arlequin, pour épouser Colombine, doit devenir franc-maçon, et puis les francs-maçons de Poinciné, qui pose d'emblée la problématique justement de l'initiation des femmes, qui est un grand sujet de controverse au 18e, faut-il les initier ou pas, c'est d'ailleurs peut-être encore un sujet d'actualité aujourd'hui. Et là, Poinciné les met en scène dans un opéra un peu satirique, qui se moque en fait de tout le monde. Mais je rappelle justement, si on revient à la flûte, que Mozart avait tranché ce problème, puisque dans la flûte, Pamino et Pamina sont initiés en même temps, donc Mozart considère qu'on peut initier les filles.
Donc tout ceci est une autre histoire. Il y a plus récemment, Gounod, je crois, qui avait fait un opéra, complètement maçonnique. Alors, encore une fois, peut-être pas lui dans la musique, mais...
Oui, c'est librettiste, en tout cas. Effectivement, alors on a quelques opéras maçonniques à l'époque romantique, et donc, qui est absolument extraordinaire, c'est La Reine de Saba de Gounod, Gounod, dont on sait que c'est un grand musicien catholique, a failli devenir prêtre, qui est l'auteur de l'hymne du Vatican. Gounod se fait refiler par ses deux librettistes un livret absolument extravagant, La Reine de Saba, qui raconte la construction du temple de Salomon par l'architecte Hiram, et qui rappelle évidemment toute une problématique de l'initiation maçonnique. Et c'est un opéra qui, plus est, a été un four, peut-être parce que les Français ne l'ont pas compris à l'époque, mais même Oswald Wyss écossaïstes en parlent. D'ailleurs, Oswald, il proteste contre cette réutilisation du rite écossais-ancien accepté. Et je note, en revanche, alors on dit que c'est l'opéra qui porte malheur, l'opéra traditionnel, et puis l'opéra de Paris va le remonter l'an prochain. Voilà, donc j'engage tous ceux qui ne l'ont jamais entendu, parce que je crois qu'à ma connaissance, il n'a jamais été remonté sur la scène de l'opéra de Paris depuis plus de 150 ans. Donc j'engage effectivement le public à aller découvrir cette œuvre tout à fait extraordinaire et extravagante qu'est la Reine de Saba.
De la même façon que vous aviez participé à une conférence dans les locaux de la Grande Loge de France au mois d'avril sur les journées des arts maçonniques, peut-être faudra-t-il faire dans nos locaux une journée spécifiquement sur la musique, et il est probable que, outre des conférences comme celle que vous aviez tenue, on pourrait écouter des musiciens, jeunes musiciens, qui se livrent totalement.
Voilà, ce serait une bonne chose que pour la fête de la musique, la Grande Loge de France organise un concert. Alors je rappelle qu'il y a beaucoup de musiciens, il y a toujours eu beaucoup de musiciens maçons, y compris à l'Opéra de Paris sous la Troisième République. Il y a toujours eu beaucoup de musiciens maçons, mais il serait bien de donner un concert joué par des musiciens francs-maçons et qui pourraient jouer de la musique maçonnique et pas seulement de la musique maçonnique ancienne, puisqu'il y a aussi des jeunes compositeurs aujourd'hui, j'en connais certains, ils m'ont autorisé d'ailleurs à les citer dans le livre, qui composent régulièrement de la musique maçonnique, voilà, musique bien sûr contemporaine dans la forme, et je pense qu'il faut les encourager et les aider.
Alors, comme la fête de la musique c'est dans 3 jours, que ce projet est assez vaste...
Oui, ce serait pour l'an prochain.
Vous tomberez d'accord avec moi que ce sera peut-être pour l'année prochaine. Voilà, en tout cas, c'est une idée à creuser. Merci beaucoup Jean-Pierre.
Merci de m'avoir invité.
Alors, je voudrais pour clore cette émission, vous proposer de venir le 24 juin dans les locaux de la Grande Loge de France pour venir écouter M. Trinh Xuan Tuan, qui est un astrophysicien. Alors me direz-vous, quel lien avec la musique? Ben, évidemment, il vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle « La plénitude du vide », mais avant, il avait écrit un livre dans lequel, « La mélodie secrète », dans lequel il dit « La nature n'est pas muette, tel un orchestre lointain, elle nous fait constamment parvenir des fragments de musique et des notes éparses ». Je vous invite donc à venir dans nos locaux le 24 juin à 15h. Inscrivez-vous auprès du site de la Grande Loge de France et profitez aussi de la présence de Monsieur Trinh Xuan Tuan le 27 juin, je répète le 27 juin, à Lille, et là ce sera à 20h. Et en attendant, après, évidemment, nous vous donnons rendez-vous à toutes et à tous pour notre prochaine émission le 16 juillet. Il nous reste à remercier à la technique Monsieur Alain Joubert et évidemment toujours à la réalisation d'Annie Journeau. Merci à tous, bonne journée du 18 juin et à très bientôt.